Conte d'un voyageur, deuxième livre, chapitre premier, la vie littéraire. Parmi les divers objets qui piquent la curiosité d'un voyageur, j'avais depuis longtemps le plus vif désir de recueillir quelques anecdotes sur la vie des gens de lettres. Et me trouvant à Londres, un des endroits les plus renommés pour la publication des livres, j'étais extrêmement curieux de connaître l'espèce d'animaux qui les produit. Le hasard me mit heureusement en relation avec un littérateur nommé Berthorn, personnage qui habitait depuis longtemps la métropole et qui, pour me tracer l'histoire naturelle de tous les animaux étranges que l'on rencontre dans cette vaste forêt, il s'empressa de me communiquer quelques renseignements utiles sur l'objet de mes recherches. Parmi les divers objets qui piquent la curiosité d'un voyageur, j'avais depuis longtemps le plus vif désir de recueillir quelques anecdotes sur la vie des gens de lettres. Et me trouvant à Londres, un des endroits les plus renommés pour la publication des livres, j'étais extrêmement curieux de connaître l'espèce d'animaux qui les produit. Le hasard me mit heureusement en relation avec un littérateur nommé Berthorn, personnage qui habitait depuis longtemps la métropole et qui pouvait me tracer l'histoire naturelle de tous les animaux étranges que l'on rencontre dans cette vaste forêt. Il s'empressa de me communiquer quelques renseignements utiles sur l'objet de mes recherches. « Le monde littéraire, dit-il, est composé de petites confédérations dont chacune garde ses membres comme les flambeaux de l'hiver et consacre les autres comme de simples météores passagers condamnés à tourner bientôt et à être oubliés, tandis que ses propres lumières brilleront encore d'un éclat non interrompu à toute éternité. Et comment, s'il vous plaît, lui dis-je, s'introduit-on dans ces confédérations dont vous me parlez? Je pense que le commerce entre auteurs est une espèce de troc d'esprit où chacun doit apporter des marchandises en échange et où l'on ne donne jamais rien pour rien. « Oh non ! Ah ah, quand vous vous trompez, dit Berthorn en souriant, ne croyez jamais que ce soit en brillant que l'on obtient la faveur des beaux esprits. Ils vont dans la société pour briller eux-mêmes et non pas pour admirer l'état des autres. Oh, je pensais autrefois comme vous, et je me rendais jamais dans une réunion littéraire sans avoir étudié d'avance mon rôle. Il résulta que j'eus bientôt la réputation d'un insupportable discoureur, et qu'en peu de temps, j'eusse été complètement excommunié si j'avais changé de système. Non, monsieur, il n'y a point de qualité qui ait plus de succès chez les beaux esprits que celle de savoir écouter. Ou bien, si vous êtes jamais éloquent, soyez-le en tête à tête avec un auteur. Louez alors ses ouvrages ou, ce qui vous plaira presque autant, dépréciez les ouvrages de ses contemporains. Quand même, il dirait du bien des productions d'un autre, de ses amis intimes. Soutenez hardiment l'opinion contraire. Décidez que son ami est une buse. Oh, ne craignez pas de l'offenser. On parle beaucoup de l'irritabilité des auteurs. Je n'en ai jamais trouvé un qui se fâchât de contradictions de ce genre. Non, non, monsieur. Les auteurs conviennent des défauts de leurs amis avec une candeur toute particulière. De plus, je dois vous engager à être extrêmement sobre de remarques sur les ouvrages modernes, si ce n'est pour faire des observations satiriques contre les écrivains les plus distingués de notre temps. Parbleu, lui dis-je, je ne louerai personne qu'il ne soit mort depuis un demi-siècle au moins. Même alors, observa M. Bergson, je vous conseillerais beaucoup de circonspection, car vous devez savoir que plusieurs anciens écrivains ont été enrôlés sous les bannières de sectes différentes, et que leur mérite devient l'objet de discussions de parti aussi vives que celles qui concernent le mérite des hommes d'État et des politiques de nos jours. Il y a même, dans notre littérature, des périodes entières abondamment en état de blocus ou tabouté, pour me servir d'une expression de la mer du Sud. Ce sera, par exemple, risquer dans certains cercles sa réputation d'homme de goût que de dire un mot d'éloge sur quelque écrivain du règne de Charles II ou même de la reine Anne, tous ces auteurs étant déclarés des Français déguisés. Mais comment, lui dis-je, pourrais-je savoir si je parcours une tête de sauve, étranger comme je suis aux bornes littéraires et à de la ligne des frontières du genre à la mode? Oh, répondit-il, il y a heureusement dans la littérature un espace qui font une sorte de terrain neutre sur lequel tous les gens de lettres se traitent en amis et se lient sans contrainte à l'excès de leur humeur bienveillante. C'est le règne d'Élisabeth et celui de Jacques. Oh, ici, vous pouvez louer à tort et à travers. Ici, vous pouvez en prendre un souhait et en revêtir encore. Plus l'auteur est obscur, plus le style est rocailleux et affecté, et plus votre admiration portera le caractère de la véritable connaisseur dans le goût, semblable à celui des épicuriens, préfère le gibier qui a le fumet le plus prononcé. Mais, continua-t-il, puisque vous paraissez curieux de connaître quelque chose des sociétés littéraires, je saisirai l'occasion de vous introduire dans une coterie où se réunissent les talents du jour. Oh, je ne vous réponds pas cependant qu'ils soient tous du premier ordre. Je ne sais pourquoi, mais nos grands génies n'aiment pas à se mettre en bande, ne vont pas en troupeau. Ils s'élancent séparément dans la société. Ils préfèrent se mêler comme des hommes vulgaires dans la multitude et ne se servant de rien de l'auteur si ce n'est la gloire. Les classes inférieures partent ensemble, acquièrent la force et l'importance par leur union et prennent tous les caractéristiques distinctives de l'espèce.